Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Chantal Leroux.
Bonjour, bienvenue dans Appel sur l'actualité. Dans 13 jours, le mardi 3 novembre, aura lieu l'élection présidentielle américaine. Quel regard portez-vous sur la campagne et sur le duel sans merci que se livrent le républicain Donald Trump et le démocrate Joe Biden? Qu'est-ce qui vous frappe? Qu'est-ce qui vous étonne? Qu'est-ce qui vous choque? L'Afrique sera-t-elle impactée, selon vous, par le résultat du scrutin? On ouvre le débat dans 30 minutes. D'ici là, appelez-nous au 33 9 693 693 70 ou sur WhatsApp au 33 6 89 28 53 64. Mais d'abord, vos questions à la rédaction de RFI. C'est un documentaire dont on parle beaucoup depuis sa diffusion sur la BBC le 11 octobre. La taupe raconte l'infiltration rocambolesque des réseaux nord-coréens par un ex-cuisinier danois et un acteur qui joue le rôle d'un richissime homme d'affaires. Yabao, bonjour.
Bonjour Chantou.
Vous nous appelez de Bobo Dioulasso, Burkina Faso. En ligne également avec nous, Juliette Morillo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, rédactrice en chef adjointe du site d'information Asialiste et vous avez co-signé avec Dorian Malovic Le Monde selon Kim Jong-un aux éditions Robert Laffont. Yabao, vous vouliez en savoir plus sur la taupe, on vous écoute.
Oui. La Suède et le Danemark ont annoncé saisir l'ONU après la sortie d'un documentaire danois démontrant que Pyongyang contourne les sanctions internationales contre la Corée du Nord. Que sait-on du documentaire et de la manière dont les protagonistes ont parvenu à infiltrer les réseaux nord-coréens?
Juliette Morillo, alors bien évidemment, vous avez vu le documentaire. Est-ce qu'il contient des révélations, des choses que la spécialiste de la Corée du Nord que vous êtes ignorait?
Disons que pour la première fois, on voit des choses que fondamentalement tous les spécialistes de la Corée du Nord connaissaient, savaient, on en avait entendu parler, mais là on aurait, je garde le conditionnel, on aurait les preuves via cette infiltration. Mais tout dans ce documentaire est un petit peu étrange. Tout d'abord, la motivation de celui qui va être la taupe, qui est un cuisinier, qui ne travaille plus parce qu'il a des allergies et qui va infiltrer l'association d'amitié Corée du Nord au Danemark. C'est comme ça qu'il va réussir à entrer en contact avec un autre personnage, c'est un petit peu louche, qui s'appelle Cao de Beño. C'est un personnage qui se dit avoir être au sommet de la hiérarchie en Corée du Nord, et c'est un trafiquant d'armes, mais tout ça c'est un petit peu louche. Ce qui est très étrange dans ce reportage, qui met en scène donc ce cuisinier, une sorte de barbouze qui joue un homme d'affaires, qui se rend en Corée du Nord, et qui vont monter de toutes pièces finalement un trafic d'armes, avec même la construction d'une usine de munitions en Ouganda. Ce qui est très étrange, c'est qu'on a l'impression qu'à un tel niveau, quand les Nord-Coréens, on le sait, ils ont des rapports avec l'Afrique, ils essayent de vendre, ils sont étranglés par les sanctions internationales, donc ils essayent par tous les moyens de s'en tirer, mais on s'étonne d'un côté amateurisme, qui fait que même si ce documentaire, en effet, infiltré au cours de 10 ans, en Corée du Nord, bien qu'il n'y aille qu'une seule fois, montre des rouages curieux, et on ne peut pas mettre en doute la véracité des tournages en Corée du Nord. Et bien malgré tout, il y a des choses étranges. Par exemple, pour une telle opération si complexe, on s'aperçoit que arrivé à Pyongyang, au moment de l'échange des cartes de visite, ils vont quand même acheter des missiles, il y a beaucoup d'argent en jeu, mais ils n'ont même pas pensé au nom de la société à laquelle ils appartenaient. Donc ils inventent un nom, Dana Corporating. Bon, les Nord-Coréens, on ne peut pas imaginer, avec leur niveau de connaissance, notamment dans le hacking, dans le cyberhacking, dans le nucléaire, comment pourraient-ils être assez naïfs pour ne pas avoir vérifié sur Internet les origines et qui étaient leurs interlocuteurs. Donc tout ça, ça rend un côté flou, très glauque, mais néanmoins, pour l'instant, on voit en effet que la Corée du Nord exsangue, essaye par tous les moyens de renflouer les caisses de l'État et de vendre des armes. Mais tout ça reste quand même très, très étrange. On ne sait pas, au fond, après avoir vu ce documentaire que j'ai donc regardé, on se demande qui trompe qui.
Alors, le réalisateur danois a filmé, je crois, en caméra cachée. Est-ce que c'est un procédé qui vous a gêné, Juliette Morillo ?
Alors, il y a une chose qui me gêne, c'est qu'on met en cause. Je pense que ce ne sont pas des journalistes, on le voit, d'ailleurs, c'est un cuisinier et c'est un cuisinier qui fait ça. Il n'y a aucune déontologie dans ce documentaire. C'est-à-dire qu'il faut bien savoir que tous les Nord-Coréens qui auront été vus dans ce documentaire seront poursuivis en Corée du Nord, ne serait-ce que parce qu'ils n'auront pas été assez attentifs pour protéger le pays et ils auront perdu la face et ils mettent en cause la Corée du Nord. Donc, la base, quand on fait un documentaire en Corée du Nord, et la base de la déontologie est de ne pas mettre en danger ses interlocuteurs, ce qui n'est pas le cas.
Yabao, vous avez une autre question pour Juliette Morillo.
Bien sûr. Pourquoi la Suède et le Danemark veulent saisir l'ONU en réaction à la sortie de ce documentaire ?
Juliette Morillo.
Ah bah bien sûr, ce trafic d'armes met en cause très directement, notamment le diplomate, par exemple, le représentant de l'ambassade nord-coréenne en Suède, le conseiller Ri Hak-chol, qui est vu. Et il faut savoir que la diplomatie en Suède et les ambassades, les représentants de la Corée du Nord en Suède, sont très impliqués, notamment dans tout ce qui est apaisement des relations. On a remarqué quand il y a eu des incidents avec la Corée du Nord, souvenez-vous de ce jeune étudiant, Van Beer, américain, qui avait été emprisonné en Corée du Nord. Les négociations se passent souvent dans un pays jugé neutre, qui est la Suède. Alors déjà, vous avez des personnages nord-coréens en Suède qui sont directement impliqués, donc ils demandent des comptes. Et puis, bien évidemment, ce trafic d'armes enfreint très clairement les sanctions onusiennes, embargo sur les armes et puis aucun commerce avec la Corée du Nord en raison du développement de l'arme nucléaire.
Merci.
Donc c'est véritablement une infraction.
Merci beaucoup Juliette Morillo d'avoir répondu à nos questions. On peut voir la taupe sur le site de la BBC et lire Le Monde selon Kim Jong-un que vous avez coécrit avec Dorian Malevic, paru chez Robert Laffont. Yabao, je vous souhaite une bonne journée à Bobo Dioulasso. Noël, bonjour.
Bonjour Chantal.
Vous nous appelez d'Abidjan, vous vous intéressez à l'actualité du Proche-Orient, d'où la présence en ligne d'un spécialiste de la région, Sami Boukhelifa, du service international de RFI. Bonjour Sami.
Bonjour à tous.
Noël, vous avez la parole.
Oui, les Kurdes de Syrie ont annoncé la libération de milliers de femmes et d'enfants de djihadistes détenus dans le camp d'Al-Aoul. Alors, je voudrais savoir que va-t-il advenir de ces familles et comment le gouvernement syrien accueille ce retour.
Sami Boukhelifa.
Oui, alors pour commencer, il faut savoir que ces familles sont sur un territoire qui échappe aujourd'hui au contrôle du gouvernement syrien. Elles sont dans la région du nord-est de la Syrie, appelée le Rojava, et le gouvernement syrien a perdu sa souveraineté sur cette région qui est aujourd'hui contrôlée et administrée par les Kurdes syriens. Donc ce n'est pas le gouvernement syrien qui va devoir faire face à ces libérations. Et il faut aussi préciser que ces familles de djihadistes sont uniquement syriennes, hein. Les Kurdes n'ont libéré que des familles syriennes, et ils justifient leur choix par trois raisons. Alors la première est humanitaire parce que ces familles vivent dans le camp d'Al-Hol. C'est un camp qui a été construit à l'origine pour accueillir 20 000 personnes, mais qui en réalité en accueille trois fois plus. Il est surpeuplé, il y a près de 65 000 personnes qui s'entassent à Al-Hol et ces femmes et ces enfants vivent dans des conditions précaires. Alors il faut le rappeler, les enfants de djihadistes restent des enfants, ce sont des mineurs innocents qui sont détenus et qui sont en train de payer en réalité pour les crimes commis par leurs parents. Ce qui nous amène à la deuxième raison invoquée par les Kurdes, la raison légale. Depuis plus d'un an, les Kurdes syriens implorent les puissances occidentales de rapatrier leurs propres ressortissants, ces djihadistes occidentaux et leurs familles, afin de mieux gérer et surveiller leurs djihadistes à eux, les djihadistes locaux. Mais en vain, les pays occidentaux refusent ces rapatriements, sauf pour certains orphelins. Résultat, aujourd'hui, les Kurdes doivent assumer le fardeau que représentent ces djihadistes et leurs familles. Il s'agit de milliers de bouches à nourrir, de milliers de personnes à soigner et qui sont détenues sans jugement puisque les Kurdes n'ont pas de tribunaux. Ils disent que cette situation ne peut plus perdurer. Ils disent aussi que nous ne pouvons plus emprisonner des gens éternellement sans pouvoir les juger. Et puis, il y a cette troisième raison. Les Kurdes, en réalité, ont cédé à la pression des tribus arabes à qui appartiennent ces familles syriennes de djihadistes et avec qui les Kurdes veulent entretenir des relations de bon voisinage. Donc voilà, pour finir de répondre à Noël, ce sont ces tribus arabes du nord-est de la Syrie qui accueillent ces familles de djihadistes libérés. Donc femmes et enfants sont placés sous leur responsabilité.
Et est-ce que cette décision peut avoir des conséquences sur la sécurité de la Syrie ou de l'Irak voisin ?
Très certainement, parce que cette amnistie ne concerne pas que les femmes et les enfants de djihadistes. Il y a aussi certains djihadistes qualifiés de djihadistes de second rang, de djihadistes de second ordre, si vous voulez, qui ont également été libérés. De quoi inquiéter les Syriens? Nous avons diffusé la semaine dernière sur notre antenne le témoignage d'un homme originaire de Raqqa qui avait qualifié cette décision kurde d'irresponsable. Je reprends juste son témoignage. Alors, ce qu'il dit, c'est « Vos djihadistes occidentaux n'auraient jamais pu commettre les atrocités qu'ils ont commises s'ils n'avaient pas été soutenus par les djihadistes locaux en Syrie. Et ce sont ces djihadistes locaux et leurs familles qui sont aujourd'hui libérés. »
Merci Samy pour ces explications. Noël, bonne journée à Abidjan. On va maintenant revenir sur la présidentielle qui s'est déroulée dimanche en Bolivie. Élection remportée dès le premier tour par le candidat socialiste Luis Arce, considéré comme l'héritier politique d'Evo Morales, qui vit en exil en Argentine depuis sa démission en 2019. Luis Arce a remporté la présidentielle avec plus de 53% des voix, devançant largement le candidat centriste Carlos Mesa, 29%, et le candidat de droite, Luis Fernando Camacho, 14%. Alassane Moussa, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Vous nous appelez de Bamako. En ligne également avec nous, Christine Delfour, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de civilisation espagnole et latino-américaine à l'université Gustave Eiffel de Marne-la-Vallée, spécialiste de la Bolivie. Alassane Moussa, quelle question voulez-vous poser à Christine Delfour?
D'accord. Et comment expliquer la victoire du dauphin de Evo Morales qui a été chassé du pouvoir il y a un an?
Christine Delfour, est-ce que ce retour de la gauche au pouvoir est une surprise un an après le départ forcé d'Evo Morales?
Écoutez, non, si on analyse bien les choses, oui, par le résultat, qui n'est pas encore tout à fait définitif, puisqu'il y a encore 85% des bulletins qui ont été dépouillés, mais ce sont les chiffres que vous avez donnés. Non, parce que ce n'est pas une surprise, parce que c'est la confirmation que le MAS a vraiment consolidé un électorat qui n'a pas varié depuis l'année dernière, et puis après 15 ans quand même au pouvoir et des réformes assez importantes de la part du gouvernement d'Evo Morales. Donc oui, parce que quand même il y a un décalage fort dans le sens que l'année dernière il y avait quand même 10% de différence entre les deux candidats et cette année l'écart s'est creusé à 20%. Donc c'est assez surprenant sachant cette année a été une année très très compliquée et avec une polarisation, une radicalité très forte entre toute la classe politique mais aussi la population en Bolivie. Alors plus si on y ajoute à ça la Covid, ça fait beaucoup.
Alassane Moussa, vous avez une autre question?
Quelles sont les raisons pour lesquelles les élections se sont déroulées dans un tel climat de tension? Est-ce qu'elles se sont déroulées dans des conditions transparentes?
Christine Delfour.
Bah écoutez, tout semble indiquer qu'elles se sont déroulées dans des conditions transparentes. Ça a été compliqué parce qu'elles ont été plusieurs fois annulées, en principalement pour la Covid, mais également peut-être aussi parce que la présidente qui avait été désignée pour la transition, disons, avait peut-être envie de rester un peu plus et de toute façon dès le départ a modifié profondément certaines choses, en particulier a limogé pas mal de gens dans l'administration, soit dans le ministère des Affaires étrangères que dans l'administration publique.
Mais des centaines de personnes, Christine, des centaines de personnes ont manifesté à Santa Cruz hier en dénonçant des fraudes.
Oui,
et Luis Fernando Camacho a émis des doutes sur la fiabilité des résultats.
Oui, alors Luis, je vous rappelle que Camacho est le candidat de l'extrême droite, catholique et représentant donc vraiment une partie infime de la population. Il a même dit qu'il avait prévu de faire un comptage, si vous voulez, lui, avec les personnes autour de lui. Mais si vous voulez, d'une certaine façon, il occupe les médias. Mais les élections se sont déroulées.
En tout cas, de manière pacifique.
Peut-être des choses, si vous voulez, de manière pacifique.
Oui,
aussi, à quelques petites choses, à Cochabamba, à Oruro, en particulier à Chuquisaca. Mais si vous voulez, alors maintenant, c'est.
Christine, brièvement.
Tous les candidats. Quand même, et la présidente, on dit que tout c'était fait dans la tranquillité. Je pense que les gens ont besoin de sérénité, la population. Voilà.
Merci beaucoup Christine Delfour. Merci Alassane Moussa d'avoir participé à l'émission. Bonne journée à Bamako. On va terminer cette première partie d'appel sur l'actualité avec Agnès Rougier, journaliste spécialiste de l'environnement et du climat au service France de RFI. Bonjour Agnès.
Bonjour Chantal.
Hassan est en ligne de Dakar. Bonjour Hassan.
Oui, bonjour Chantal.
Hassan, vous vouliez nous parler d'une découverte assez étonnante.
Oui, oui. À partir des photos satellites de la NASA, une étude du CNRS, ils ont détecté 2 milliards d'arbres dans la zone sahélienne, traditionnellement considérée comme désertique. J'ai deux questions à ce propos.
La première d'abord.
Dans quel cadre les chercheurs du CNRS ont réalisé cette étude et comment sont-ils arrivés à cette conclusion ?
Agnès Rougier, comment tout cela a-t-il commencé ?
En fait, tout ça a commencé par une rencontre entre des chercheurs qui ont tous travaillé au Sahel. Alors, il y a Laurent Kergoat de l'Observatoire Midi-Pyrénées du CNRS, Martin Brandt de Copenhague, Abdoul Diouf du Centre de suivi écologique de Dakar et Compton Tucker de la NASA, pour ne citer que. Et puis, un agronome, de l'Université de Toulouse, Pierre Herniaud, qui fait des relevés du terrain de la végétation dans toute cette région sahélienne depuis 1984. Alors, sachant que les arbres représentent un élément central de l'écologie et des politiques environnementales en Afrique, et en particulier en raison de la menace qu'on connaît de désertification, eh bien, ils ont mis toutes leurs connaissances en commun pour compter les arbres.
Mais c'est une surprise de découvrir que cette zone du Sahel, que l'on croit plutôt de plus en plus désertique, recèle en réalité un nombre d'arbres conséquent.
Ah oui, c'est carrément une surprise, parce qu'en général, en fait, quand on étudie le climat, l'environnement, on s'intéresse aux arbres en tant que forêt, mais jamais aux arbres isolés. Et là, justement, ils ont travaillé à partir d'une base de données de photos prises par des satellites. Ce sont les photos qui sont utilisées par Google Earth, et avec des méthodes d'intelligence artificielle, ils ont réussi pour la première fois donc à compter ces arbres isolés sur un espace de plus d'un million de kilomètres carrés qui couvre tout l'ouest du Sahara, le Sahel et au plus au sud les zones dites subhumides.
Et comment ont-ils procédé concrètement ?
Alors les chercheurs ont fait travailler des ordinateurs de la NASA sur 11 000 photos dont chacune couvre environ une zone de 100 kilomètres de côté mais avec une résolution de 50 centimètres. Au total, c'est sur un territoire grand comme deux fois et demi la France. Et puis ils ont utilisé une intelligence artificielle pour analyser ces photos, mais pour qu'elles soient au point, il a fallu d'abord l'entraîner à la reconnaissance de formes, et pour ça ils lui ont montré 90 000 photos de couronnes d'arbres, donc la cime des arbres, pour qu'elle puisse les identifier sans erreur. Quand l'IA a été au point, les chercheurs ont découvert donc quasiment 2 milliards d'arbres isolés, ce qui donne en moyenne quand même 13,4 arbres à l'hectare, avec une couronne de 12 mètres carrés en moyenne, et quand même dans une zone où il tombe entre 0 et 1 mètre de pluie par an, donc c'est très très peu. Et bien sûr, plus on quitte le désert, plus la densité d'arbres augmente. Alors on passe en moyenne de moins d'un arbre à l'hectare dans les zones hyper arides, à 30 arbres à l'hectare dans les zones dites subhumides, ce qui donne un taux de couverture moyenne, on va dire de 3 à 4%, Et en fait, on pense que ça a augmenté ces dernières années, depuis qu'on est sorti des grandes sécheresses des années 80.
Alors, brièvement, Agnès, en quoi cette étude va être bénéfique pour la lutte contre le réchauffement climatique ?
Bon, en fait, d'abord, ce qui est bien, c'est que cette étude produit un point zéro à partir duquel on va pouvoir étudier l'évolution de l'environnement sur le temps. Elle montre que les arbres aussi sont plus grands, près des villages et dans les zones agricoles, en fait, quand ils sont intégrés dans l'agriculture. Mais concernant le climat, c'est compliqué, parce que oui, l'étude fournit des paramètres qui vont être intégrés dans des modèles climatiques prévisionnels, exceptionnelles, hein, comme l'albédo par exemple, c'est la réflexion des rayons solaires sur le sol. Mais ces arbres peuvent jouer un rôle dans le cycle de l'eau, ils peuvent ralentir le vent ou l'accélérer. Et aussi, ils stockent du carbone, et ça, ça va se quantifier. C'est le prochain programme du consortium de chercheurs.
Merci beaucoup Agnès Rougier. Hassan, bonne journée à Dakar.